identité africaine sur Radio Sputnik Afrique.
Kenny Soninke.
Gaï Binam.
Bonjour aux auditeurs de Radio Sputnik Afrique pour l'émission Identité africaine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir au micro M. Michael Kirtley, qui est un grand reporter, cinéaste, photographe, une grande personnalité de la télévision et conseiller en communication, voilà, fondateur d'ONG. On n'en finirait pas, Michael. Bonjour, bonjour, vous allez bien ?
Bonjour, Maxime. Ça fait plaisir de vous avoir au bout du fil, là, pour Sputnik.
Michael, si vous êtes aujourd'hui à l'antenne de Radio Sputnik Afrique à Identité africaine, c'est parce qu'on va parler surtout de l'Afrique. Mais avant tout, j'aimerais simplement que vous disiez, vous êtes américain d'origine, vous vivez en France, mais vous avez une grande histoire avec l'Afrique. Vous pourriez nous dire comment ça se fait, pourquoi l'Afrique est arrivée dans votre vie ?
Merci d'avoir parlé de mon background en Afrique, car depuis que j'ai 20 ans, ça fait il y a à peu près 50 ans, mon destin est très lié avec le continent africain. Comment ça a commencé ? Moi, je viens d'une petite région aux États-Unis qui s'appelle le Kentucky. C'est un pays de pas mal de façons et similaire à ce que j'ai retrouvé dans différentes parties d'Afrique, dans le sens que c'est un pays rural, que c'est un état rural, c'est un état où la culture et l'identité en tant que Kentuckien est très important. Donc, lors de mon enfance, l'Afrique, lorsqu'on est aux États-Unis, en tant qu'enfant, on a, surtout à cette époque-là, quelles sont les images qu'on avait de l'Afrique? C'était surtout d'un endroit dans le monde qu'on appelait à ce moment-là le Dark Continent, le continent sombre. Pas, disons, lié à une question raciale, mais beaucoup plus lié à une question de connaissance. On avait vraiment l'impression qu'on connaissait pas grand-chose de l'Afrique. Et donc, je suis né avec des images qui venaient à travers notamment des films de Tarzan, par exemple, ou bien quelques informations qu'on recevait, que ça soit concernant la danse africaine ou plus sombrement sur les problèmes en Afrique tels que les famines ou éventuellement certaines guerres. Mais on avait vraiment une image relativement romancée de l'Afrique. Et pour moi, étant jeune Américain, le continent africain représentait surtout un endroit que j'avais envie depuis l'âge de 6 ans de découvrir. Donc, à l'âge de 19 ans, j'ai décidé de me lancer dans la découverte de l'Afrique et j'avais un certain avantage car j'étais pauvre. Et donc, il fallait que je me lance comme je faisais aux États-Unis d'ailleurs à l'époque, en autostop. C'était la seule façon à cette époque-là de voyager sans beaucoup d'argent. Et ça m'a beaucoup servi parce que ça voulait dire que j'étais quelque part obligé de dépendre de ce que je retrouvais en Afrique, des personnes que je retrouvais. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. J'étais, comme beaucoup de personnes, j'avais un peu peur de ce que j'allais découvrir.
C'est-à-dire que, excusez-moi de vous interrompre, vous dites que vous êtes arrivé en Afrique. On est en quelle année alors là?
La première fois que j'ai mis pied en Afrique, c'était au Maroc. Et ma destination à l'époque était l'Afrique du Sud. Donc, je projetais de traverser tout le continent.
En quelle année exactement c'était ?
1970.
Et vous avez fait donc ce parcours en autostop, en Afrique ?
Oui, tous les premiers voyages que j'ai fait en Afrique étaient en autostop. Donc, bien sûr, je souffrais aussi de l'image qu'on promeut en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il faut avoir peur de l'Afrique. Donc, j'avais peur, d'une certaine façon. Quand j'ai mis pied au Maroc pour la première fois, je suis resté avec un groupe d'Américains qui avaient aussi peur que moi, et à se dire, on est en Afrique. Donc, à ce moment-là, c'était, dans un sens, tellement inconnu que on ne pouvait que juger ce qu'on allait trouver qu'à travers ce qu'on nous disait. Et que ça soit à travers les médias, que ça soit à travers des gens qu'on rencontrait. Mais en même temps, nous étions assez ouverts d'esprit. Et moi, j'ai découvert très vite dans ce voyage que toutes les idées reçues que j'avais sur le continent africain étaient d'une façon ou d'une autre fausses. D'abord, j'ai retrouvé des personnes qui pensaient un peu comme moi sur beaucoup de choses, notamment concernant la famille, concernant la nourriture, concernant l'importance de la culture, concernant l'importance de l'amitié et notamment concernant l'hospitalité.
D'accord.
Partout où j'étais, où je suis parti, et mon premier voyage en Afrique a duré 7 mois, j'ai voulu aller jusqu'à l'Afrique du Sud, mais j'ai fini par faire presque tout le Maghreb, mais ensuite descendre à travers le Sahara jusqu'en Afrique subsaharienne, où j'ai surtout passé du temps dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest.
C'est-à-dire le Niger, vous pouvez nommer un peu les pays ?
Le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana, qui n'est pas francophone, le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye.
D'accord.
Tous ces pays, je les ai parcourus en 1970, à l'âge de 20 ans, en autostop. Et pourquoi je dis que mon avantage était d'y aller pauvre? Parce que, à l'époque, la plupart, en dehors du Maroc, où il y avait une certaine vogue pour le Maroc à l'époque d'aller par le mouvement hippie, mais en dehors du Maroc, il n'y avait pas beaucoup de voyageurs en Afrique qui n'étaient pas venus pour une façon ou une autre pour exploiter ce qu'ils retrouvaient en Afrique. Les hommes d'affaires ou bien des diplomates de divers. Moi, je venais avec à peu près les mêmes moyens que je retrouvais chez des gens. Donc, j'arrivais à vivre carrément avec les différentes personnes chez qui j'allais, que ce soit des personnes de haut rang ou de très bas rang.
C'est-à-dire que vous avez eu la chance à ce moment-là de découvrir l'Afrique de cette époque-là en partageant réellement la vie quotidienne très peu connue, puisque nous sommes donc en 69, c'est ça ? Et donc vous découvrez tout ce qui est traditionnel, vous découvrez les liens familiaux, vous vouliez d'amitié, c'est ça qui était important à ce moment-là.
Je dirais que ça a toujours été important pour moi, mais ce qui m'a vraiment impressionné en Afrique, c'est combien ces valeurs comptaient. Et je dirais que c'était un peu partout. J'étais bien reçu au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, mais j'étais également aussi bien reçu dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Donc, je comprenais au bout d'un moment que mes idées reçues avec lesquelles je suis arrivé, qui n'étaient pas les miennes nécessairement, mais qui venaient de beaucoup d'autres sources, étaient des idées qui me trompaient et qui me donnait la si j'avais tenu à garder ces idées-là, j'aurais eu une idée très faussée de l'Afrique et peut-être je serais parti très vite parce que j'aurais eu peur de moi-même dans un sens parce que il y a tellement de choses diverses à découvrir, mais lorsqu'on creuse un peu, il y a une genre d'identité qui existe dans les pays où je suis parti, qui est une identité très similaire à ce qu'on retrouverait si on faisait le même voyage, le même genre de voyage en France ou aux États-Unis, c'est-à-dire on trouverait le peuple. Et pour moi, ce qui comptait, c'est que c'était pas la découverte géographique des monuments ou des paysages, c'était la découverte du peuple africain. Et ça m'a beaucoup servi pour développer une attitude générale sur la découverte de l'Afrique, mais aussi pour comprendre que la première chose qu'il faut comprendre sur l'Afrique est combien nous avons à apprendre de l'Afrique. Je dois dire que je suis arrivé presque nu intellectuellement en Afrique et je suis sorti riche grâce à ce que j'ai reçu comme éducation des Africains. Et je ne m'y attendais pas nécessairement. Pour moi, à l'origine, c'était l'idée de dans un sens, de conquérir un continent. Dans le sens que j'allais voyager à travers un continent, c'était très difficile, et j'allais arriver au bout, et je serais content de moi, etc., etc. Mais très vite, j'ai compris que j'avais complètement tort d'avoir cette attitude. Ce que je comprenais, c'est que j'avais tellement à apprendre de des personnes et des cultures et des pays que je traversais, que j'ai compris que c'était presque mieux que d'aller à l'université, dans ce sens.
Et qu'est-ce que vous parlez, quelle langue arrivez? Vous êtes américain, vous êtes en Afrique francophone apparemment, et vous parlez le français, qu'est-ce qui se passe? Comment vous communiquez?
Mais c'est une très bonne question, parce que quand je suis arrivé en Afrique, j'avais des bases de français, parce que la plupart des gens chez qui j'allais en Afrique à ce moment-là étaient des francophones, en tout cas parlaient le français. Très peu de personnes à l'époque parlaient anglais, ça change maintenant, mais... Donc, j'étais un peu désavantagé dans le fait que je comprenais assez mal le français et je parlais assez mal. Mais néanmoins, je me débrouillais et la générosité des personnes les personnes que je retrouvais en Afrique était telle que finalement, ce n'était pas important. Et ça ne les dérangeait pas d'inviter quelqu'un qui ne pouvait pas trop communiquer avec eux à manger, à marcher dans la rue, à voyager avec. L'Afrique, à l'époque, beaucoup de pays africains n'étaient pas difficiles pour faire de l'autostop. Donc, les gens prenaient très facilement en autostop et étaient, de façon générale, complètement indifférent face à l'idée que je ne pouvais pas très facilement communiquer avec eux.
D'accord.
Donc le français, bon, j'ai appris beaucoup de français en Afrique. Mm-hmm. Ça, je dois dire qu'après ces 7 mois, je parlais beaucoup mieux le français qu'au début.
Je voulais savoir, vous êtes arrivé, bon, un peu démuni, vous êtes en autostop, donc vous n'êtes pas très riche, mais vous êtes tout de même américain, vous avez vu des voitures à l'époque, vous avez certainement déjà une télévision aux États-Unis, mais là vous arrivez dans les villages, c'est une Afrique, on ne peut pas parler de pauvreté, mais c'est tout de même une Afrique assez dénudée. Il y a à ce moment-là, déjà, donc, c'était des ex-colonies. Vous habitez aux États-Unis où il y a des Noirs américains. Est-ce que vous faites le rapport avec le fait que vous êtes dans des pays qui ont été colonisés par des Blancs et que vous êtes un Blanc sur place?
À l'époque?
Oui.
Bon, vous faites bien de me dire, de rappeler que je viens d'un pays qui a connu très malheureusement l'esclavagisme. Et dans mon, et d'ailleurs dans mon état de Kentucky, c'était un état esclavagiste dans le passé, un état du Sud. Et donc environ 25% de la population de Kentucky est noire. Je dois dire que même chez moi dans le Kentucky, j'étais un grand rebelle contre la ségrégation et contre la maltraitance des Noirs. Donc, dans un sens, quand je suis parti en Afrique la première fois, je n'avais pas de préjugés concernant cette question. D'abord, lorsqu'on va, il faut bien le souligner, l'Afrique n'est pas que noire. Et quand je suis arrivé en Afrique la première fois, c'était au Maroc, en Algérie. Ça, c'était les premiers pays que j'ai visités. Et généralement parlant, c'est les personnes, les habitants de ces pays sont,
sont des Arabes blancs.
Arabophones ou berbérophones. Donc, je n'avais pas. Par contre, je me souviens très bien de la première fois que je suis arrivé en Afrique noire, c'est-à-dire c'était après une longue traversée du Sahara en Algérie. Et je suis arrivé au Niger. Et dans le nord du Niger, dans le Sahel, si vous voulez, il y a des petites maisons faites de paille à l'époque. Et ça me rappelait des images très connues que j'avais vues dans les films, et je me souviens que je ressentais un certain contentement parce que je me suis dit, enfin, je suis arrivé dans la vraie Afrique. C'était une idée un peu fausse à l'époque, mais c'était ma réaction était, dans un sens, je me retrouve chez moi. J'étais soudain très content de retrouver l'Afrique que j'avais, auquel j'avais rêvé depuis que j'avais 6 ans, et maintenant, je me retrouve chez moi. J'ai beaucoup ressenti cet esprit-là. Donc, venant de Kentucky, n'oublions pas que c'est non seulement un endroit où il y a beaucoup de Noirs, mais c'est aussi un endroit où la pauvreté est très endémique, où l'éducation étatique n'est pas aussi forte que dans d'autres États. Donc, dans un sens, je ne sentais pas un clivage très important entre mon passé de Kentuckien et ce que je retrouvais en Afrique.
Oui, mais disons que ça n'a rien à voir. L'éducation d'un Américain blanc dans le Kentucky et l'éducation au même moment d'un...
Et c'est là où je vous contredirais. Il y a beaucoup plus de communalité entre les gens qui sont... Et c'est, beaucoup de différences entre des personnes sont des différences de perception, et cette perception est née souvent dans une perception de richesse. Bon, évidemment, les gens que je retrouvais en Afrique étaient relativement pauvres comparés à leur image de l'Américain. Et la plupart des gens n'étaient pas blancs comme moi, si vous voulez. C'est vrai, il y avait cette perception dans les deux sens qui existait. Mais je dirais que ce que j'ai toujours apprécié en Afrique, c'est l'accueil, c'est la générosité d'esprit. Et peut-être tout au début, ils me voyaient comme blanc et donc riche, mais aussitôt qu'ils comprenaient que j'étais un peu une énergumène, que j'arrivais pauvre et que je dépendais d'eux beaucoup plus que de l'inverse. Ils étaient très, très ouverts à moi pour ça. Donc, autant je pouvais ressentir le racisme contre les Noirs en Amérique et même en France, autant en Afrique, je ressentais pas de racisme contre moi en tant qu'Américain, contre, même si j'étais pauvre, ou contre moi en tant que blanc. J'étais très vite, et même jusqu'à aujourd'hui, hein, ce côté-là n'a pas trop changé. Et c'est une des valeurs, je trouve, en Afrique. c'est la possibilité de ne pas, malgré le fait que ces mêmes peuples ont été maltraités pendant des siècles par des Blancs, ils n'avaient pas une attitude envers moi, c'est-à-dire ils me voyaient en tant qu'individu et pas comme si je représentais une race ou une civilisation externe.
Et depuis, vous avez fait moult voyages. Vous êtes rendu d'ailleurs même pour National Geographic, pour Life. Vous avez fait des reportages. C'est suite à ce premier voyage que vous avez l'idée de venir témoigner dans le monde occidental de ce que vous avez vu au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez commencé à revenir vers l'Afrique?
Mais je dirais que une fois que j'avais fait ces premiers 7 mois en Afrique, que je me sentais dans un sens tellement chez moi, dans les pays que j'avais traversé, que je n'avais qu'une envie, c'était de retourner et d'y vivre d'une façon ou d'une autre. Donc c'était cette découverte de la solidarité d'esprit que je trouvais en Afrique qui m'a fait revenir vers l'Afrique. Bon, évidemment, il fallait que je trouve les moyens assez pratiques pour le faire. Bon, on ne peut pas faire l'autostop et espérer que ça perdure. Donc
vous retournez aux États-Unis et vous allez chercher des contrats. C'est-à-dire, vous connaissez...
Mais ça, c'est schématisé. Non, en fait, non. Les premières fois que je suis allé en Afrique, je ne travaillais pas en tant que journaliste. Je cherchais, j'étais un peu un aventurier dans le sens que je partais en Afrique chercher des possibilités de travailler. Par exemple, j'étais professeur d'anglais à Casablanca pendant un an et demi. Après, je me suis marié avec une Française et ensemble, nous sommes partis en Afrique subsaharienne et nous avons travaillé encore une fois en tant que professeur. Ce n'était que par la suite que j'ai compris que si je voulais, très progressivement est née en moi l'idée que non seulement je pouvais vivre en Afrique, ce qui me plaisait, mais aussi je pouvais aider mes compatriotes ou bien le monde blanc de façon générale à mieux comprendre l'Afrique. Parce que je trouvais que l'Afrique souffrait d'une telle peut-être dans le racisme, née dans le supériorité, l'idée de supériorité, née dans le colonialisme, née dans beaucoup de choses qu'ils ont passées dans le passé. Je trouvais que l'attitude envers le continent africain, ou que ce soit en Europe ou aux États-Unis, était tellement à l'encontre de ce que je trouvais moi-même que j'ai commencé en moi à avoir la mission d'éduquer mes pauvres amis américains, mes pauvres amis européens à mieux comprendre ce continent. Donc c'est de là est née l'envie d'être journaliste.
D'accord.
C'est-à-dire que je ne suis pas devenu journaliste parce que ce métier m'attirait. C'était beaucoup plus dans l'idée que je voulais apporter la beauté de l'Afrique dans toutes ses splendeurs à l'extérieur. Et évidemment, ça m'a mené vers National Geographic. Heureusement, j'ai pu travailler avec National Geographic très vite sans avoir eu beaucoup d'expérience dans le journalisme parce que j'avais cette envie brûlante que les personnes qui n'ont pas l'avantage et la chance de découvrir l'Afrique puissent la découvrir. Et je dirais que toutes mes années de journalisme, et ou que ça soit dans le cinéma, ou que ça soit dans d'autres domaines, les domaines humanitaires, c'était surtout dans l'idée d'apporter une connaissance, une meilleure connaissance et une meilleure appréciation du continent africain.
Qu'est-ce qu'on ne devrait pas, vous qui avez tout de même côtoyé, rencontré Wade Bani, Mandela, vous avez une grande liste, Kadhafi aussi, est-ce que Mohamed Ali, le boxeur, qu'est-ce qu'on ne devrait pas perdre, oublier de cette Afrique-là? Qu'est-ce qu'elle nous transmet? Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'Afrique, à nous?
Je vais vous répondre d'une façon peut-être inattendue de votre côté, mais je pense que nous, si on réfléchit à ce qu'on peut attendre de l'Afrique, c'est d'abord de voir ce qu'on s'attend de nous-mêmes. Si on croit vraiment aux valeurs humanistes que nous prenons, que ça soit la liberté, que ça soit l'égalité, que ça soit la fraternité, nous adopterons déjà une autre attitude envers non seulement l'Afrique, mais tous les pays du Sud. Et on se rendrait compte que il y a plusieurs façons de bénéficier d'un échange. La façon, généralement parlant, des pays du Nord concernant l'Afrique est surtout une façon de bénéficier commercialement. Mais il y a plein d'autres façons de bénéficier de l'Afrique. Et donc, je pense que une fois qu'il y aura de plus en plus de monde, ça ne sera pas un mouvement global, mais je pense que quand il y a de plus en plus de monde qui comprennent toute la richesse culturelle, toute la richesse de mentalité, toute la richesse de... Par exemple, un très bon exemple de ça, c'est la façon de voir les vieux en Afrique. Et il y a pas mal de monde qui ont parlé de ça, mais on voit presque jamais une maison de retraite pour les vieux, parce que les vieux sont vénérés en Afrique. Et non seulement vénérés, ils ont un rôle très important dans la vie quotidienne de tous les villages. Et cette attitude envers différentes parties de la vie peut régler aussi des problèmes que nous avons chez nous. On pense jamais à ça. On pense jamais que le continent africain est un creuset de connaissances d'où nous pouvons apprendre. C'est toujours vu dans le sens inverse. Nous avons quelque chose à apprendre aux Africains. Et l'avenir de l'Afrique sera à la fois décidé par les Africains dans le sens qu'ils vont comprendre que leur propre valeur et leur propre existence même est un apport au monde entier, parce que ils sont condamnés à le comprendre dans un sens que sans une prise de conscience qui n'est pas simplement un miroir de ce que le monde extérieur pense de soi-même, on ne peut pas avoir une existence, une identité pleinement réussie. Donc, c'est ça l'esprit du panafricanisme aussi. C'est l'esprit que l'Afrique représente une valeur identitaire extrêmement importante, non seulement pour les Africains, mais aussi, si bien vu, pour le monde entier.
C'est ainsi que se termine la première partie d'Identité africaine. Ne partez pas trop loin, nous allons revenir tout de suite pour reprendre la conversation avec Michael Kerplay. À tout de suite.
Sputnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Sputnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, zone de contact, marché en main et identité africaine, politique, économie, défense, sciences et culture. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream.
Identité africaine sur Radio Sputnik Afrique.
Kenny Soninke.
Gaye Binam.
Vous écoutez Identité africaine et vous êtes sur les ondes de Radio Sputnik Afrique. Et nous reprenons notre conversation avec Monsieur Michael Kirtley. Vous comprenez tout de même que l'Afrique a des besoins, a des problèmes vitaux, que ce soit en eau, nourriture, en éducation, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez Michael Kirtley, en vous? Quelle est votre réaction face à ce que vous voyez?
Oh, moi, je dirais que j'ai des réactions très profondes à ces questions et très importantes. Bon, aussi bien dans le pratique que dans la théorie. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai aidé à créer des ONG pour aider certaines populations dans le Sahel à avoir de l'eau. Je ne suis pas inconscient face à ces choses. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout comme je vois le monde. C'est-à-dire que si on part du principe que tout un continent est très pauvre ou que tout un continent souffre de certains fléaux, on ne va nulle part dans l'aide de ces continents. On doit les traiter et on doit les aborder en tant qu'égal et égal. Et dans ce sens-là, tout ce que je faisais et tout ce que je fais aujourd'hui pour apporter une meilleure connaissance à l'Afrique, c'est dans l'idée que toute personne, que ce soit humanitaire ou politicien ou homme d'affaires, s'approche à l'Afrique d'une autre façon. Pas d'une façon de supériorité ou d'aide, comme vous voulez le dire, mais de façon de solidarité et d'égal à égal. Donc, c'est très important pour moi, cette notion. Je ne crois pas qu'on peut avoir une vraie aide qui va vers un continent ou vers un pays ou vers un peuple si on ne comprend pas que ces peuples ont leurs propres valeurs qui sont très importantes dans le paradigme. Je vous donne un exemple très important. J'ai remarqué pendant mes premières années en Afrique que la plupart des projets humanitaires venant de l'Amérique ou de la France d'où que ça soit étaient des projets qui ne marchaient pas et très vite tombent en panne. Mais malgré tout l'argent qu'on mettait dedans. Alors, quelle était l'attitude des organisateurs de ces projets, de ces organisations humanitaires qui proposaient ces projets? L'attitude était de dire, généralement parlant, « Ah, c'est un problème qui concerne les Africains, ils ne sont pas encore prêts, ils ne sont pas, en tout cas, ils sont trop paresseux. » Il y a plein de raisons pour culpabiliser les populations qui étaient soi-disant aider. Mais j'ai compris très vite que ce n'était pas du tout ça. Il y avait deux raisons pour lesquelles les aides humanitaires ne marchaient pas. Premièrement, c'était l'attitude depuis le départ de ces organisations qui voulaient aider. Et cette attitude était de dire, nous avons quelque chose à apporter parce que nous sommes de l'Occident. Parce que nous avons fait beaucoup plus de chemin qu'eux, donc on sait mieux qu'eux. Et souvent, c'était apporté par des bureaucrates qui ne restaient pas très longtemps. Donc, ils s'en foutaient quelque part du résultat, parce qu'ils savaient que s'ils étaient, mettons, à Dakar pendant 3 ans, le projet n'allait pas prendre que 3 ans. Donc, ils s'en foutaient du résultat, parce que ça allait, la fin du projet et le jugement du projet allaient être scindés bien après. Son départ.
Vous voulez dire que les ONG, la plupart du temps, c'est décidé à l'extérieur, ce sont des énarques qui connaissent bien sûr pas grand-chose, comme vous le connaissez, à la vie quotidienne, à la vie réellement profondément des habitants d'une partie de l'Afrique, et tout ce qu'ils imaginent, c'est qu'il y a un problème, il manque d'eau, donc voilà, c'est logique, on va creuser un puits et ils vont se servir de l'eau. Et alors que le problème est beaucoup plus profond, il vient certainement des problèmes climatiques, de déplacement dans ce qui concerne le désert, par exemple, qui bouge et qui, bon, aujourd'hui, on connaît un peu mieux le problème. En fait, ce sont ils abordent ça comme des gens de bureau, hein, en gros. On va dire ça comme ça.
Je ne vais pas rentrer dans les généralités comme ça, mais ce que je peux dire, c'est que nous ne pouvons pas prétendre aider qui que ce soit, sans voir la vie après sa propre perspective. Et l'attitude de la plupart des ONG, y compris jusqu'à aujourd'hui, surtout des grandes ONG internationales, est que nous savons mieux que vous ce qui vous est vrai. Et donc, je trouve que cette attitude est néfaste, non seulement pour les peuples qui soi-disant on veut aider, mais c'est aussi néfaste pour nous, parce que ça veut dire que nous ne sommes pas conscients de notre propre racisme dans la façon d'aborder les gens. Et je ne parle pas d'une question raciale, le racisme dans le sens, c'est souvent beaucoup plus le racisme envers les populations pauvres. Si les Africains étaient très riches, on ne serait peut-être pas aussi racistes. Mais la question de différence économique fait une grande partie de la problématique dans la façon dont nous, à l'extérieur de l'Afrique, voyons l'Afrique. Donc ça veut dire que dans ce sens, que ça soit des journalistes, que ça soit des politiciens, que ça soit des hommes d'affaires ou que ça soit des États, on aborde l'Afrique avec, peut-être on se dit, on a quelque chose, on va s'amuser, ou bien on va regarder les animaux, ou bien on va avoir un échange culturel, mais je remarque que la plupart de ces organisations et de ces États vont en Afrique avec une attitude de supériorité.
Donc, enfin, ce que je veux rajouter un petit peu, parce que tout de même, pas toujours, il ne s'agit pas que de creuser des puits, il s'agit d'abord de l'éducation, et je pense que dans ce domaine, la Russie, l'Union soviétique, en son temps, a fait énormément en offrant à des jeunes étudiants africains la possibilité d'étudier la médecine, devenir ingénieur et rentrer au pays. Enfin, je veux dire, ils ont fait des écoles de ponts et chaussées. La plupart, effectivement, des pays occidentaux ont formé des énarques africains, des économistes. La Russie a formé plutôt des médecins, des ingénieurs.
Très bien, Maxime, je comprends ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas faux. Je veux dire, ce n'est pas faux de dire que la France, la Russie et aujourd'hui même les États-Unis offrent des possibilités d'éducation aux différentes personnes en Afrique.
Les États-Unis et la France, ils ont plutôt installé des bases militaires.
Je poserai la question inverse.
Depuis un certain temps, on sait que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y avait même pas beaucoup d'intervention militaire russe, alors que l'Occident en a truffé l'Afrique de bases militaires.
Mais je suis désolé, Maxime, mais je dois vous contredire d'une façon très importante, c'est que pendant toute la période où j'ai découvert l'Afrique, c'est-à-dire les 20 premières années, par exemple, toute l'histoire de l'Afrique était une histoire de la guerre froide. Et il y avait il y avait des pays africains qui étaient liés avec l'Occident, il y avait les pays africains qui étaient liés avec l'Union soviétique.
Absolument.
Et donc, l'influence de la Russie en Afrique a été extrêmement importante, notamment dans les pays, que ce soit dans une question de relation précise, par exemple avec l'Angola ou avec différents pays qui étaient sous la tutelle de l'Union soviétique, mais aussi idéologiquement. Mm-hmm. L'Union soviétique a été d'une énorme importance.
Absolument.
La révolution soviétique a été d'une énorme importance pour les Africains et pour la plupart des populations dans les pays pauvres aussi.
Oui, mais il faut rappeler que la Russie n'a jamais été un pays colonisateur. Hein. C'est pourquoi les Africains ont eu plus tendance à se tourner effectivement vers le marxisme et vers une société socialiste parce qu'ils faisaient peut-être un peu plus confiance aux Russes qu'aux ex-colonisateurs qui ont pendant longtemps et qui continuent d'ailleurs encore à s'enrichir grâce à l'Afrique.
C'est un débat qui certainement vaut la peine d'avoir, mais je ne pense pas que je suis assez informé sur la façon de faire de l'Union soviétique dans les pays africains pour pouvoir en parler.
Non, mais c'est juste pour rappeler comme quoi la Russie n'a jamais colonisé un seul pays d'Afrique. Que ce soit le Portugal, la Hollande, l'Espagne, la France ou les États-Unis qui ont exporté la population africaine, la Russie, dans ce domaine-là,
la Russie n'a jamais été un colonisateur historique de l'Afrique. Ça,
non.
C'est vrai.
Voilà. Et donc, du coup, je comprends. Imaginez. D'ailleurs, on pourrait venir à cette question parce que moi, je pense que ça serait intéressant. Qu'est-ce que c'est pour vous le panafricanisme?
Ah, mais le panafricanisme est un mot un peu galvaudé, très très moderne aussi, de dire, mais ça n'a jamais la même signification historiquement à travers les années ou bien entre des personnes. Panafricanisme est à la fois une idéologie, une philosophie, et aussi en ce qui concerne l'Union africaine, une application politique. Le panafricanisme est né d'un esprit et d'une philosophie assez universelle depuis très longtemps, depuis l'époque des Égyptiens, des Grecs, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le panafricanisme est né dans l'idée que les peuples à travers le monde devraient avoir de la liberté, devraient se traiter d'égal à égal et devraient se traiter avec un bénéfice économique partagé. Ça, c'est le panafricanisme. Il est né aussi du fait que le continent africain a subi beaucoup d'invasions, beaucoup de colonisation et a souffert énormément de l'oppression venant de l'extérieur, que ça soit par l'esclavagisme, que ça soit par la suite par des comptoirs de mercantiles qui ont été établis et qui ont à la fois aidé l'esclavagisme mais aussi exploité les Africains et à la fois par le colonialisme et le néocolonialisme et l'impérialisme de beaucoup de pays. Donc le panafricanisme est né dans l'idée que dans l'unité nous avons de la force face au monde extérieur. Ça s'est exprimé d'une façon différente à travers les années, mais globalement, on peut dire que le panafricanisme est né avec la révolution haïtienne au début du 19e siècle, menée par Toussaint Louverture, qui était le premier esclave noir à se libérer et à libérer tout un peuple d'esclaves de la jougue de la France à l'époque. Donc, c'était le premier État noir dans le monde, Haïti. Mm-hmm. Et donc, cette révolution des esclaves noirs pour créer un pays indépendant, noir, reconnu par l'extérieur, premièrement reconnu par l'ancien colonisateur, la France, était très important dans la compréhension du pouvoir de l'idée noire d'abord, mais aussi de l'idée africaine. Car Toussaint Louverture et beaucoup d'autres philosophes de l'époque prenaient cette idée. C'était pour eux, c'était pas une question simplement de la liberté d'un pays ou d'un peuple, mais c'était aussi exprimé comme la libération du peuple noir, qui à l'époque, à travers le monde, souffrait encore de l'esclavagisme. Donc à travers les années, c'est devenu beaucoup de choses à différents moments. À un certain moment, ça concernait le peuple noir du monde entier, que ça soit né en Afrique, que ça soit une diaspora noire aux États-Unis notamment, ou dans les Amériques en général. Et quelquefois, c'est devenu un peu plus restreint, soit que ça concerne uniquement les Noirs américains, qui voulaient exprimer un rêve de l'Afrique, un rêve de retourner en Afrique notamment, ou bien un rêve de créer un État noir indépendant du reste des États-Unis. Il y a eu Malcolm X, par exemple, même Mohamed Ali, il parlait souvent de cette idée panafricaine. Donc, c'était une réaction aux États-Unis à l'oppression ressentie non seulement à travers l'esclavagisme, mais aussi à travers le racisme qui existait et qui existe toujours aux États-Unis. Donc, mais en Afrique, c'était perçu un peu différemment. C'est-à-dire que, effectivement, c'était les grandes époques du panafricanisme étaient au moment de l'indépendance des pays africains, notamment fin des années 50, début des années 60. Mm-hmm. Et c'était donné, c'est l'Algérie, c'est l'indépendance, la révolution en Algérie qui a donné beaucoup d'essor au panafricanisme parce que les Algériens se sont représentés comme les leaders du mouvement anticolonialiste, où que ce soit, mais notamment en Afrique. Donc, les grands panafricanistes ont été souvent de l'Afrique au sud du Sahara, mais ont été aussi de l'Afrique au nord du Sahara. Et dans ce sens-là, le panafricanisme représente une unité contre l'extérieur.
Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours valable d'une certaine manière? Parce que on entend très souvent.
Valable, vous voulez dire quoi?
Je veux dire que très souvent, surtout les Africains de la partie noire africaine, quand ils parlent d'eux, ils disent je suis africain, nous sommes africains, alors qu'il y a 54 nations sur ce continent, et malgré tout, ils ont besoin de cette unité, de cette valeur d'unité pour dire nous sommes un seul peuple. Et pour dire ça, il y a forcément derrière l'idée nous avons été colonisés, nous avons besoin de souveraineté, nous avons besoin de liberté. Il y a toujours cette revendication qu'on entend, je suis africain.
Je ne suis pas un porte-parole d'aucune façon pour l'Afrique. Mais je pense que la revendication, c'est effectivement, nous sommes contents que vous ayez besoin de nos ressources. Mais traitons-nous comme des égaux. C'est-à-dire, non, traitons-nous comme. J'ai une expérience qui va peut-être donner un peu de lumière à ce que vous dites. Moi, je suis cinéaste et je travaille dans le cinéma. Et donc, je sais comment ça marche en Occident. Lorsqu'on fait un film, par exemple, en France, en Italie, aux États-Unis, on a certaines règles de base, un certain respect qu'on a envers. Par exemple, si on veut filmer les agriculteurs au centre de la France, on doit les traiter avec un certain égard, un certain respect. Et j'ai vu à plusieurs reprises des maisons de production françaises aller dans les pays au sud du Sahara arriver Bon, évidemment, ils vont exploiter, de quelque sorte, ils vont exploiter la possibilité de faire un film dans un village africain. Mais ça, c'est eux, ça, c'est leur point de vue, le point de vue de l'Européen. Mais le point de vue d'Africain, c'est comment est vécu ce désir de faire ce film. Premièrement, ce que j'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises, c'est que ce qui se passe dans le en Afrique, c'est que la même maison de production en France qui respecterait à la lettre toutes les règles qui existent de déontologie envers une population française ne respecterait absolument pas cette même déontologie lorsqu'il s'agit de filmer dans une population africaine. Et je crois que, pour revenir à la question que vous voulez dire, effectivement, l'Afrique a beaucoup de ressources. L'Afrique, le continent dans son ensemble, représente peut-être le creuset inconnu et inexploité de ressources minérales, le plus riche au monde peut-être pour l'avenir. Donc l'Afrique est très importante dans ce sens-là pour l'avenir du monde entier. Mais on peut pas s'attendre à une coopération bilatérale dans l'exploitation de ces ressources, sauf si nous sommes prêts à agir avec un homme d'affaires africain de la même façon qu'on agirait avec un homme d'affaires occidental.
Oui, mais vous voyez, vous dites vous-même africain. Vous ne dites pas un homme d'affaires de la Côte d'Ivoire, un homme d'affaires de... Il y a 54
nations. Non, mais c'est parce que vous l'avez posé comme ça. Moi, je vous aurais dit que... Il y a deux façons de voir cette question. Quand on est en France, quand on est aux États-Unis, je ne peux pas parler de la Russie, parce que je ne connais pas. Je connais la Russie, mais je connais pas toutes les questions concernant l'Afrique en Russie. On a tendance à voir le continent africain comme un endroit. Oublions que le continent africain est 4 fois plus grand que les États-Unis avec Alaska. Et je crois, si je me souviens bien, c'est 2,5 fois plus grand que toute la Russie. Donc, si vous voulez, quand nous abordons le continent africain, ici en Occident, nous avons très souvent tendance à ne pas faire cette différenciation que vous venez de dire. Effectivement, non seulement il y a 54 pays, mais il y a des centaines de cultures différentes, il y a des centaines de langues différentes. Peut-être des milliers de langues.
Des milliers, il y a plus de 2000 langues, oui, effectivement.
Oui, c'est-à-dire que la diversité en Afrique est certainement aussi grande que la diversité en Europe.
Plus grande, peut-être même, on va dire.
Et donc on a tendance à oublier cela et à l'occulter. Alors, est-ce qu'on l'occulte parce que ça nous arrange, ça rend la vie plus facile pour nous de parler de l'Afrique comme ça, parce que ça donne lieu à des généralités. Par exemple, je vous donne un très bon exemple. On a tendance à regarder le continent africain comme un endroit de guerre. J'ai réfléchi à cette question tout à l'heure et je me suis dit, mais quelle hypocrisie de taxer le continent africain comme un continent de guerre. D'abord, ce n'est pas vrai dans les faits, parce que il y a certains pays qui ont des grands problèmes de guerre, mais la plupart des pays africains ne sont pas en guerre. Mm-hmm. Deuxièmement, ce n'est pas vrai dans la façon de souligner cette situation en Afrique, quand la même situation prévaloit en Europe, en Russie même, avec la guerre en Ukraine. Mm-hmm. Donc, dans la plupart du monde, depuis très longtemps, il y a eu la guerre. Mm-hmm. Donc, si je disais à un confrère journaliste, l'Europe, pourquoi il y a tant de guerres en Europe? Comment il répondrait? Il dirait, mais monsieur, il n'y a pas tant de guerres en Europe. Nous avons maintenant la guerre en Ukraine, Est-ce qu'il y a une guerre ailleurs? Non. Mais oublions que certains pays européens qui prennent la guerre ailleurs aussi. Mais si on va en Afrique, l'Africain, il va avoir la même attitude. S'il est au Sénégal, il va vous dire, mais monsieur, il n'y a pas de guerre au Sénégal. Pourquoi vous parlez de la guerre? Je suis Africain, mais je ne connais pas la guerre. Donc, cette façon de voir l'Afrique est, pour moi, très hypocrite quand on vient du monde où, chez nous, il y a plus de guerres que ce qui existe en Afrique.
Ben justement, j'aimerais bien entendre votre avis. Est-ce que l'Afrique gagnerait, parce que si on peut parler un peu du futur de l'Afrique, de tel que vous l'imaginez, tel que vous pourriez l'imaginer, tel que vous pourriez l'espérer, on va dire ça comme ça, vous qui aimez ces pays, ce continent, est-ce que l'Afrique gagnerait à être unie, justement, à représenter une, ne serait-ce que par sa monnaie, par sa politique, par sa politique de l'exploitation de ses sols, de la protection, de l'éducation, de la médecine, enfin, je veux dire, l'ensemble. Est-ce que l'Afrique doit être unie pour continuer à grandir? Donc, je voudrais entendre votre avis pour le futur de ce continent.
D'abord, je pense que c'est une question qui doit être posée aux Africains, d'abord. Je peux répondre d'une façon, disons, alambiquée, dans le sens que je crois que le futur de l'Afrique dépendra des Africains, tout d'abord, et je crois que l'unité africaine est une idée, est une idéologie, est un rêve qui n'a pas une possibilité de finalité. C'est pas comme si tous les pays africains allaient s'unir. Mais il y a des endroits où on peut trouver l'importance de l'unité africaine. C'est par exemple dans le Parlement africain, dans l'organisation de l'unité africaine, il y a différentes représentations de cette volonté d'unité, mais pour des raisons précises, que ce soit pour des raisons de politique, que ce soit pour des raisons de règlement de problèmes internes à l'Afrique, que ce soit pour proposer à l'extérieur une façon de devenir en partenariat avec l'Afrique. Il y a plein de possibilités dans la question d'unité. Mais pour moi, la question d'unité en Afrique commence déjà par des questions d'unité régionale en Afrique. N'oublions encore une fois, c'est 4 fois plus grand que les États-Unis d'Amérique. Et donc, il y a des efforts dans ce sens-là, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique australe, et aussi dans le Maghreb, il y a des efforts d'unité, notamment dans le domaine économique, mais aussi dans les échanges culturels, entre des pays de différentes régions en Afrique. Souvent, ça concerne des pays qui ont une langue commune, et cette langue pouvant être tracée au colonialisme, mais souvent aussi, c'est une question géographique, purement et simplement. Par exemple, le Nigeria, et c'est plus facile pour le Nigeria d'avoir un échange économique avec des pays voisinants, comme le Niger, comme le Bénin, comme le Cameroun, que ça l'est pour le Nigeria d'avoir des échanges économiques avec le Kenya, par exemple. Donc c'est aussi une question pratique, cette façon de voir le panafricanisme. De façon globale, l'avenir de l'Afrique va être décidé par les Africains.
Merci beaucoup, parce que c'est très juste, c'est un très joli mot de la fin. Je vous remercie, on vous retrouvera, j'espère, encore plusieurs fois, sur d'autres sujets. Merci beaucoup, nous avons passé une magnifique heure avec Monsieur Michael Kirtley.
Mais merci à vous.
Et voilà, merci aux auditeurs de Radio Sputnik, et vous avez été sur Identité africaine. À très bientôt, à très bientôt. Merci beaucoup. Là-dessus se termine Identité africaine. Sur Radio Sputnik, Afrique. À très bientôt, chers auditeurs.